Nous allons lire deux textes, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu. Le premier dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Nous prendrons la Sainte Cène après la prédication. Je pense que ça sera beaucoup plus utile. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement passait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Dans Matthieu, chapitre 22, nous avons le même texte sans la parabole. Matthieu, chapitre 22, verset 34. Il y a 15 jours, nous avions partagé le premier commandement. Ce matin, nous allons partager le second. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. » Je répète. « Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. » Vous connaissez également ce texte dans Ésaïe, où il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Vous connaissez la suite ?« Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur serait comme les flots de la mer. » Si tu étais attentif à mes commandements. Et déjà, c'est peut-être une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous sommes attentifs aux commandements ? Nous sommes attentifs aux promesses. Il y a même des boîtes de promesses. Il y a des livres de promesses. Il y a à Noël, vous remarquerez, sur nos publications, sur nos comptoirs, plein de trucs sur les promesses. Je ne suis pas contre, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on affectionne une promesse qu'elle va s'accomplir. Par contre, si on est attaché aux commandements, ça détermine beaucoup de bénédictions. Dernièrement, donc, nous nous sommes arrêtés sur le premier commandement, parce que c'est important que nous nous y arrêtions, puisque Jésus a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Ce matin, nous allons réfléchir à ce second commandement. Si Jésus dit qu'il est important, ça vaut la peine que nous nous y arrêtions. Ce n'est pas toujours facile de s'arrêter sur certains commandements. Si on veut être vraiment honnête, vous êtes d'accord avec moi ? Si on veut vraiment être vrai, tu aimeras ton prochain. Quand on sait que Jésus a dit que c'était le deuxième commandement qui est semblable au premier, il va de soi que ça peut nous mettre mal à l'aise d'en parler vraiment. Je ne sais pas comment vous le voyez. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que ça vous intéresse que nous parlions de ce commandement ? Ça peut nous attrister que nous abordions certaines choses. Vous vous rappelez quand Jésus s'est révélé pour la troisième fois aux apôtres ?
Vous rappelez, ils étaient désœuvrés, il y avait des pêcheurs, ils sont partis pêcher, il y en avait qui n'étaient pas pêcheurs, qui l'ont accompagné, ils étaient désœuvrés, et Jésus s'est approché d'eux une troisième fois. On voit bien une chose, c'est que Jésus s'est approché pour les bénir, puisqu'ils ont été à la pêche, ils n'ont rien pris, et Jésus les attendait sur le rivage avec des poissons, du pain, etc. Jésus les attendait, il voulait les bénir. Mais, même s'il voulait les bénir, ce qui est le cas ce matin, est-ce que vous croyez que Dieu veut vous bénir? Bien sûr que oui, mais de notre côté, nous savons très bien que Dieu ne veut pas que nous bénir. Il veut nous arrêter peut-être, nous interpeller sur un sujet. D'ailleurs, ce jour-là, où il les a bénis, il a provoqué une situation où il a demandé à Pierre de se retirer avec lui et il lui a posé la question « Pierre, m'aimes-tu ?» Vous connaissez cette affaire, suite au reniement de Pierre, il fallait régler cette affaire parce que c'est extraordinaire d'être béni et je crois que Dieu le fait. Même si parfois nous ne méritons pas la bénédiction, je crois que Dieu nous bénit quand même. Vous croyez que Dieu nous bénit parfois même qu'on ne le mérite pas? Moi je le pense, vraiment je le pense. La preuve est liée. Mais Jésus sait exactement comment aussi on est. Et si on a droit à la bénédiction parce qu'il est notre Père, gloire à Dieu, ça c'est même pas la peine d'en parler. D'un autre côté, il sait très bien le rendez-vous que nous devons avoir avec lui pour que certaines questions nous soient posées. Et là, c'était par rapport à Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Vous connaissez l'affaire. Et la troisième fois, Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? C'était un amour plus faible, mais quand même, c'était un amour réel. Et Pierre, il nous est dit, fut attristé de ce que Jésus lui posait pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il y a des questions qui peuvent nous affliger. Oui ou non? Ça peut nous mettre mal à l'aise. Est-ce que, si le Seigneur vous dit 5 fois de suite, est-ce que c'est ça? Bon, à la 5e fois, vous dire, bon, écoute, oui, c'est Dieu qui me la pose, la question. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine que le Seigneur nous pose des questions? Et quand j'ai commencé à préparer cette prédication, je me suis dit, c'est quand même un sujet, si on veut être honnête, qui est délicat, qu'on peut zapper complètement pour ne pas aborder ou mettre des gens mal à l'aise. Tu aimeras ton prochain. Je ne sais pas si vous avez envie que je prêche sur ce sujet. Est-ce que vous avez envie? Oui, il faut, de façon, si le Seigneur Jésus en parle, on doit en parler. On doit en parler et je voudrais aborder ce sujet de telle sorte que, bien sûr, comme nous l'avons chanté, nous soyons sous sa main bénissante qui va nous bénir et nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai toute cette semaine, j'ai réfléchi à cette prédication. Toute cette semaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, toute la semaine, j'ai réfléchi à cette prédication depuis dimanche dernier. Je suis obsédé par cette parole de Jésus, tu aimeras ton prochain. Si vous avez lu les évangiles ou si vous prenez le temps de relire les évangiles d'une manière neutre, vous observerez que le Seigneur Jésus n'a pas fait de grands discours sur la théologie, sur l'expiation, sur certaines doctrines, etc. Mais Jésus a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la façon dont nous devrions nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Relisez les évangiles, surlignez si vous souhaitez le faire, et vous verrez le nombre de fois où Jésus insiste sur l'importance que nous avons de devoir porter du fruit les uns vis-à-vis des autres, dans la famille, dans l'église, là où Dieu nous a placés. Est-ce que c'est important que nous portions du fruit? Voilà, vous voyez, ça nous amène à préparer ce sujet. Voilà, tu aimeras ton prochain. Il y a beaucoup de gens qui, comme ce docteur de la loi, sont très, très, très vertueux pour poser des questions et pour essayer de noyer le poisson. Nous ne sommes pas là, nous, pour essayer de tout mélanger. Nous sommes sous le regard de Dieu et nous voulons prendre ce commandement au sérieux parce que Jésus en parle d'une manière sérieuse. Donc, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Nous savons, nous le verrons à la fin, qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous permettre d'avancer. Vous le savez, s'il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, moi, je fais vraiment des progrès, je suis meilleur que les autres. Déjà, il y a un petit problème. Je crois que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Donc déjà, soyons rassurés que personne ne fasse un procès d'intention par rapport à cette prédication. Je crois que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, chaque pas que nous faisons, est un effet de la grâce de Dieu. Mais il ne faut en parler. Pourquoi? Parce que vous l'avez lu, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais on voit bien que toute la bénédiction, toute la vie, toute la faveur divine va dépendre de la façon dont nous nous appliquerons à aimer Dieu de toute notre vie et en même temps d'aimer notre prochain. Parce que c'est trop facile de dire, moi j'aime Dieu, je me confie en Dieu, mais les autres j'en ai rien à cirer, on l'entend ça. Moi, monsieur Gault, j'aime Dieu, j'ai pas besoin de vos conseils. C'est déjà la preuve, on l'entend souvent, ça vous l'avez déjà tous entendu, des gens qui ont un amour extraordinaire pour Dieu, mais qui détestent leur prochain. Déjà, c'est très révélateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois aimer mon prochain. Alors, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Parce que, alors, vous savez, moi j'ai entendu tellement de choses sur ce verset, sur cette parole, que ça vaut quand même la peine peut-être de préciser, mais qui est mon prochain? Bien sûr, par définition, le prochain, c'est celui qui est le plus proche de vous. Vous pouvez regarder votre prochain, voilà, ce matin, je dois aimer mon prochain. C'est une évidence, c'est le plus proche de moi. Regardez votre prochain, et dites-lui, oui, je t'aime. Vous pouvez lui dire, les jeunes hommes, faites attention à ce que vous dites. Hein. Je sais, ils ont profité de cette occasion pour dire, voilà, certaines choses. Mais c'est important, le prochain, parce que qu'on le veuille ou non, par extension, c'est celui qui est toujours à côté de nous, celui que Dieu met à côté de nous. Par extension, c'est tout être humain. Vous êtes d'accord avec moi? On ne se trompe pas en disant, moi, mon prochain, tout genre humain est mon prochain. Celui qui habite de l'autre côté de Toulouse, malgré tout, c'est mon prochain. Celui qui habite de côté de la terre, quelque part, c'est également mon prochain parce que je suis dans la possibilité de le rencontrer. Mais là où je travaille, ce sont des prochains. Oui ou non? Demain, vous ne serez pas assis forcément à côté d'un frère ou d'une sœur ou de quelqu'un qui a une véritable piété, ce qui vous convient. Peut-être vous serez assis vous travaillerez à côté de quelqu'un qui est grossier, foncièrement blasphémateur. Quand même que vous le vouliez ou non, c'est votre prochain. Donc, toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin deviennent notre prochain. J'ai pris volontairement, on n'aura pas le temps d'en parler, la parabole du bon samaritain pour expliquer que, c'est Jésus qui en parle, que la personne que Dieu met sur votre chemin, quel que soit l'état dans lequel elle peut se trouver, devient votre prochain. Que vous ayez envie ou que vous n'ayez pas envie de l'aider, que vous le vouliez ou non, c'est votre prochain. On peut zapper, et combien, hélas, combien, soyons honnêtes, combien de fois nous sommes passés à côté de besoins de personnes, oui ou non, parce qu'on était mal en point, parce que ça n'allait pas. Enfin, on ne va pas voir le côté négatif, parce que ce n'est pas intelligent. Mais il est inévitablement vrai, ce côté, qu'on s'est tous loupés, oui ou non. Est-ce que vous ne vous êtes pas loupés parfois? On en a honte, on a tous honte, moi le premier, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous donner la leçon. Mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Ce matin, c'est 8 jeunes. Non, 5 jeunes. Vous êtes mes prochains. Celui qui est à côté de moi, quel qu'il soit, peut-être vous avez à côté de vous quelqu'un qui est pauvre. C'est quand même votre prochain. Peut-être que vous avez à côté de vous quelqu'un qui est très riche. Est-ce que c'est toujours votre prochain? Vous savez, moi je suis arrivé pasteur dans une église, les riches étaient d'un côté, les pauvres de l'autre. Et si vous saviez ce que j'ai entendu, laissez-moi vous dire que c'était loin d'être vraiment l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça peut arriver dans une église qu'un pauvre soit assis à côté d'un riche. Est-ce que ça tient debout? Ben oui, la Bible dit le pauvre et le riche se rencontrent, l'Éternel a fait l'un et l'autre. Mais vous savez, rien que ça déjà, rien que ça, ça peut prêter problème et amener des croyants à agir avec un mauvais état d'esprit parce que la personne qui est assise à côté de moi est pauvre et que je peux exprimer un certain mépris parce qu'elle n'est pas habillée comme... Mais quand même si la personne est pauvre, il n'en demeure pas moins que c'est mon prochain. Moi, je vous avais dit dernièrement qu'une fois, il y avait un clochard qui s'était assis à côté de moi et qui avait une odeur, mais c'était insupportable. Mais j'ai honte parce que je connais la Bible. Mais j'étais malheureux parce que... Ça m'incommodait, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Mais j'ai honte parce que ce n'est pas bien. Il sentait l'urine, l'alcool, la crasse. Et je dis, Seigneur, tu l'as fait exprès. Je vous assure, mais je rigolais pas. Je rigolais pas. Et je sais que ça peut arriver. C'était quand même mon prochain. C'est vrai que le dimanche après, j'avais assis à quelques de moi quelqu'un qui était un super, super bien habillé, bien parfumé. Bien sûr, mais n'empêche que ce soit quelqu'un, un clochard ou que ce soit quelqu'un de notable, mes frères et sœurs, c'est notre prochain. Et que nous devrions commencer déjà par là à ne pas nous faire des idées et à dire oui, moi, comme les pauvres qui ont facilement le réflexe de juger les riches. Est-ce qu'ils ont raison, les pauvres, de juger les riches? Mais non, ils ont tort. C'est un tort. J'ai entendu, moi, des pauvres, parfois, se comporter vis-à-vis de certaines personnes qui étaient riches d'une manière irrespectueuse. On n'est pas autorisé, parce qu'on est pauvre, à juger le riche, et on n'est pas autorisé, parce qu'on est riche, à mépriser le pauvre. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui nous permettent de mieux comprendre cette parole qui est essentielle, qui fait partie des deux commandements les plus importants que Jésus nous a laissés. Si Jésus a dit que c'est le premier et le plus grand commandement, et celui-ci est le second, c'est que ça vaut vraiment la peine que nous y réfléchissions, que nous y soyons attentifs. Bien sûr que nous sommes tous égaux quand on prend la parole de Dieu. Dieu nous a fait tous naître sous le même pied d'égalité. Je n'ai pas le temps de prendre les textes bibliques, mais vous savez que nous sommes tous égaux, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre. On est tous, en vérité, on est tous égaux. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais une chose est sûre, je dois aimer les riches et je dois aimer les pauvres. Et que nous nous gardions, mes frères et sœurs, de tomber dans ce panneau, parce que beaucoup de chrétiens se sont autorisés à mépriser des gens parce qu'ils avaient plus d'argent qu'eux. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ne nous étonnons pas que nous ne voyons pas certaines choses si nous commençons à ne pas aimer dans l'Église les frères et les sœurs que Dieu a placés à côté de nous. Parce que que vous le vouliez ou non, c'est Dieu qui a placé les frères et sœurs à côté de vous. Vous l'aimez, je le répète, vous l'aimez celui qui est à côté de vous? Regardez-le bien. Et celui qui est en face de vous? Je dois aimer le pauvre, je dois aimer le riche, je dois aimer la personne, quelle que soit la façon dont elle est habillée. Moi, j'ai déjà entendu, mais vous avez vu cette sœur, comment elle s'habille? Mais quand vous discutez avec la sœur, vous savez qu'elle est obligée de s'habiller comme ça, par rapport à des cicatrices, par rapport à des problèmes de marche, qu'elle doit mettre telle chaussure. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'on n'est pas habilité pour juger. Qui est habilité pour juger? Parfois même dans le couple, on n'est même pas capable de comprendre la souffrance d'un conjoint. Alors, comment pourrions-nous juger la douleur de quelqu'un? Je dois aimer mon prochain, celui qui est assis à côté de moi dans l'église. Mais il y a des églises à côté, il y a des églises baptistes. Est-ce que je dois aimer celui qui n'a pas les mêmes convictions que moi, puisque moi, je suis dans la meilleure église, puisque c'est l'église évangélique. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes les meilleurs, mes frères et sœurs. Comment non? Qui c'est qui a dit non? Vous avez dit non? Tu t'en vas, s'il te plaît. Mais bien sûr que j'ai présenté ça avec beaucoup d'humour, mais parce que vous me connaissez. Mais vous conviendrez que c'est souvent arrivé qu'il y ait du jugement de certaines dénominations parce qu'ils n'avaient pas la même doctrine que nous, ils n'avaient pas la même dénomination que nous, et nous nous sommes autorisés, comme par hasard, à avoir un certain détachement, un certain mépris, parce que des frères, des sœurs, n'avaient pas les mêmes convictions religieuses que nous. Mes frères et sœurs, gardons-nous de cela. Gardons-nous de cela. Qui nous sommes? Nous sommes évangéliques. Dieu aurait pu nous conduire à être baptistes, vous comprenez? À partir du moment où la doctrine, elle est carrée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et gardons-nous. Parce que, je le répète, je crois, moi le premier, que je ne suis pas assez attentif au commandement. C'est en méditant, car je prends davantage de temps pour méditer maintenant, je réalise que nous n'avons pas pris suffisamment au sérieux certains commandements. Je le répète, puisque Jésus dit c'est le premier, puisque Jésus dit c'est le second, c'était pas pour faire bien. C'est parce que c'est vrai. Et que ce qui est vrai est important. Et que je ne dois pas m'autoriser certaines choses parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des convictions différentes. Je dois les aimer. En tous les cas, une chose est sûre. Une chose est certaine. Celui qui pratique l'évangile, c'est celui qui aime le plus son prochain. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Ce n'est pas le protestant qui est moins spirituel que l'évangélique, parce que l'évangélique, il est rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand moi je vois des gens remplis du Saint-Esprit qui détestent les autres, je vous avoue que je m'interroge beaucoup. J'ai déjà souvent parlé sur ce sujet parce que ce sont des choses qui m'ont blessé, profondément interpellé. J'en ai perdu mon latin, comme on dit. Mais je crois que celui qui est le plus près de Dieu, c'est celui qui aime le plus son prochain, qui qu'il soit et quelle que soit l'église dans laquelle il va. Je me souviens un jour, il y avait un frère qui me disait, « Monsieur Gau, tel frère, il a rétrogradé. » Ah bon, j'ai dit, il a abandonné Dieu. Non, non, il va dans une autre église. Il va dans une église. Alors, il m'a cité l'église. J'ai dit, mais attendez, il n'a pas rétrogradé. Si, il n'est plus de notre église, il a rétrogradé. voyez comment c'est bête. Mais combien on peut faire du mal à quelqu'un? Je crois qu'il faut, s'appliquer à la façon dont nous parlons des fils prodigues. Il faut faire très attention. Tu aimeras ton prochain. Les chrétiens dans la même église que nous, les chrétiens de différentes dénominations, les voisins, vos voisins. Quels sont vos contacts avec vos voisins? Quels sont vos contacts avec vos collègues de travail? Ceux qui se moquent de vous parce que vous êtes chrétien. Je pense que ça doit arriver. Moi, ça m'est arrivé. J'ai travaillé des années en tant que chrétien dans le monde, comme on dit. Je peux vous dire que dès le lundi matin, ça n'arrêtait pas. Comment nous aimons les gens qui se moquent de nous? Comment nous aimons nos voisins qui font la tête ou qui sourient sous cape quand on va le dimanche matin au culte? Comment je vais pouvoir aider ce collègue de travail? Comment je vais pouvoir amener à la fois ce voisin si j'ai du mépris envers lui? Parce que quand même, le Seigneur nous le dit carrément, tu aimeras ton prochain. Et moi, je vous avoue que moi, toute la semaine, je me suis senti repris, ne vous affolez pas. En préparant cette prédication, j'ai même pensé pendant 10 secondes, tu ne fais pas une prédication comme ça parce que tu n'es pas capable de la faire. Puis je me suis dit, si, c'est la parole de Dieu, tu l'as fait. Parce qu'après tout, je crois qu'on se connaît suffisamment pour être honnête et dire, voilà, moi j'avais honte parce que je me rends compte qu'il y a eu des domaines où je n'ai pas suffisamment aimé. Je me rends compte où j'ai fait certaines choses, je me suis dit, mais pourquoi tu les fais? Ça m'est arrivé, je ne sais pas vous, peut-être ça vous est arrivé, mais j'en ai honte. Je le dis parce qu'on se connaît suffisamment. Combien de fois j'ai donné une pièce à un clochard, vous savez, là, qui fait la manche au feu rouge, ça a dû vous arriver, donner une pièce, mais sans même le regarder. Et quand j'ai commencé à préparer cette prédication, j'ai dit, mais mon pauvre Gérard, comment tu donnes? Parce que c'est vrai qu'on le donne parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est chrétien, etc. Mais le Seigneur ne nous demande pas trop de donner. Enfin, vous attendez. Il nous demande d'abord d'aimer. Parce qu'on peut donner sans aimer. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Que nous ne nous gargarisions pas de piété parce que nous nous appliquons à donner et nous aimons donner. Je pense qu'au prochain conseil d'administration, on va évoquer des situations où on va donner de notre argent, qui est devenu l'argent du Seigneur. Mais il n'empêche que c'est quand même un plaisir de pouvoir donner. On a donné dernièrement 2000 euros pour que des chrétiens qui ne peuvent pas réparer une chaudière puissent la réparer. Est-ce que c'était bien de le faire? Mais vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir donné 2000 euros sans aimer forcément cette église à laquelle, bon, vous aimez, on ne le connaît pas. D'accord. Mais on peut donner sans aimer. Et le Seigneur n'a pas dit le deuxième commandement, c'est tu donneras. Le premier commandement, le deuxième commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et ce sont des choses qu'il faut méditer. Moi, je vous dis, j'ai réfléchi toute la semaine. Je pourrais prêcher jusqu'à ce soir 6 heures si les forces me le permettaient ou si vous restiez. Mais mes frères et sœurs, nous sommes interpellés par ce verset. Parce que si vraiment on prend le temps de le méditer, si vous le faites toute la semaine, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler, va vous montrer. Oh, mais là, tu n'as pas aimé, non pas pour nous accabler. Vous avez vu comment Jésus, avec sa délicatesse, s'est approché de Pierre. Il lui a pas dit, Pierre, tu as vu, tu faisais le beau l'autre jour devant tout le monde. Mais tu as vu, tu es comme minable. Non, vous savez, le Seigneur pourrait nous écraser comme des vers. Et au contraire, il nous pose des questions qui vont nous aider. Et c'est le but d'une prédication, ce n'est pas de nous écraser et que tous on baisse la tête en disant « Ouais, on a tous honte, ce qui est vrai. » Mais je crois que le Seigneur, il est là pour nous relever. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Moi, je crois que le Seigneur, il est là pour nous bénir. Parce que nous sommes affligés quand nous voyons certaines choses. Il y a des choses qui nous font mal. Vous avouerez, quand vous voyez le péché de certains de nos collègues au boulot, je ne parle pas de nous, bien entendu, mais si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez être écœuré de voir ce qui se fait dans votre entreprise. Oui ou non? Vous pouvez être affligé par rapport à la façon dont vos voisins peuvent parler. Vous êtes pas, ça ne vous irrite pas quand vous voyez déjà être grossier, vulgaire? Ça ne vous irrite pas? Bien sûr que ça vous irrite. Moi, je sais que je ne supporte pas la grossièreté. C'est quelque chose que je ne le supporte pas. Que, vous voyez, et je sais que je dois faire attention quand je suis avec quelqu'un qui a le langage de charretier, parce que j'ai vite fait de dire, écoutez, s'il vous plaît, parlez correctement. Et pourtant, qui je suis, moi, pour demander à quelqu'un de parler correctement? À part aux chrétiens, si ça devait se présenter, ce qui est déjà arrivé. Ce qui prouve que certains chrétiens n'ont pas tout compris. Mais il y a des gens qui mentent autour de nous. Il y a des blasphémateurs. Il y a des gens stupides. Et nous devons les aimer. Jésus dit, tu aimeras ton prochain. C'est pas moi qui vous le dis ce matin parce que ça s'y prête. C'est le Seigneur qui nous le demande. Je suppose que souvent vous dites, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Vous le faites souvent ? Bon, vous le faites tous. Si vous avez accepté Jésus-Christ, c'est votre leitmotiv. Vous dites, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Eh bien, moi, je vous le dis ce matin simplement, tu aimeras ton prochain. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Oui, je sais que c'est difficile. Moi, le premier, je reconnais que c'est difficile. Monsieur Gault, vous me demandez d'aimer les gens avec qui je travaille. J'ai du mal à aimer les gens de ma propre famille. Est-ce que ça peut arriver des fois qu'on traverse des moments difficiles et que ça peut nous arriver que ce n'est pas évident d'aimer les gens de notre propre famille? Est-ce que ça peut arriver? Soyons honnêtes. Eh oui, ça peut arriver. Ah, vous me demandez d'aimer les gens avec qui je travaille, d'aimer mes ennemis? Parce que quand même, ça rentre dans l'enseignement, puisque Jésus a dit, aimez vos ennemis. Vous me demandez d'aimer vos ennemis, mais j'arrive tout juste à aimer les gens de ma propre famille, mais ça va être impossible. Vous voyez, si on est honnête jusqu'au bout, on peut quand même dire, oui, c'est pas facile. Et je le reconnais, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui aiment plus leur petit caniche que leur voisin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens qui parlent mieux à leur chien de compagnie qu'à leur voisin. Moi, je me souviens une fois, une sœur qui est partie et qui pleurait. Mais comme j'ai rarement vu quelqu'un pleurer. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qu'elle a perdu? Et c'était son petit chien qui était mort. J'ai dit, c'est sûr qu'on s'attache à un animal. Est-ce qu'on peut s'attacher à un animal de compagnie? Bon, moi, je crois que oui. Mais quand je vois qu'on va parler, oh, mon petit amour, viens prendre le sucre à maman. Vous croyez que j'exagère? Alors tout ça, je l'ai dit, je savais que vous ririez. Ça, c'est pas grave après tout. Mais quand même, c'est pour mettre en évidence cette vérité que nous pouvons plus facilement avoir de l'affection pour un animal de compagnie que pour notre voisin qui va peut-être aller en enfer et qui a besoin de mon bon témoignage. Je ne dis pas que vous ne le convertirez pas. Mais je pense que si le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, c'est qu'il a besoin de voir, au travers de cet amour, l'amour que Dieu nous a donné. Je ne pense pas que l'important, ce soit de plaire aux hommes. Je pense que notre plaisir serait de nous appliquer à plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce n'est pas parce qu'on va aimer notre prochain que notre prochain va nous sauter dans les bras. Peut-être même au contraire, ça va l'irriter complètement. Mais mes frères et sœurs, soyons vrais. Dans quelques instants, on va prendre le pain et le vin. Je pense que vous et moi, vous avez un plaisir, c'est celui de vous rendre agréable à Dieu. Oui ou non? Cette semaine, je lisais le livre de Job, quand Dieu lui-même donne la définition de l'intégrité, et qui dit à Satan, mais tu as vu mon serviteur, Job, comment il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quelqu'un dernièrement me demandait la définition de l'intégrité. Eh bien, j'ai dit, c'est Dieu qui la donne, en parlant à Satan de Job. Craignant Dieu et se détournant du mal. Donc notre souci, c'est d'être agréable à Dieu. Nous ne sommes pas agréables à Dieu parce que notre voisin nous aime, parce que nous l'aimons. Nous sommes agréables à Dieu parce que nous avons choisi d'aimer notre prochain. Et bien sûr que c'est difficile, je le sais. Je ne suis pas rentré dans le ministère directement. J'ai passé des années à travailler avant et je sais qu'il y a des gens qui sont blasphémateurs. Et que c'est vrai qu'on aurait tendance à les repousser à cause de leur blasphème. Mais, mes frères et sœurs, Dieu attend de nous que nous les aimions. Je ne sais pas avec qui vous travaillez, mais je vous en supplie, prenez cette parole comme un mot d'ordre du Seigneur. Tu aimeras ton prochain. Déjà dans l'église, c'est important que nous nous aimions, mes frères et sœurs. Mais au travail, les voisins, moi il y a des voisins qui me font la tête parce que je suis le pasteur de l'église et parce que dans le quartier, c'est la pagaille le dimanche et le mardi soir parce qu'on les empêche de se garer. Mais je leur dis bonjour. Souvent, ils ne me répondent pas. Mais c'est pas grave. Je leur dis bonjour. Je ne me dis pas bonjour. Eh bien, je ne leur dis pas bonjour. Vous savez, moi j'ai entendu de ces choses dans l'église. Mais j'en ai honte parce que je suis votre pasteur. Et j'en ai honte. J'ai entendu des choses de la part de chrétiens, mais qui m'ont fait bondir. Parce que je sais très bien que l'Esprit de Dieu ne pourra pas se manifester, comme on l'a si bien chanté ce matin, manifeste-toi si je commence à ne pas aimer mon prochain, à ne pas aimer mon voisin. Eh bien oui, écoutez, Dieu leur a permis qu'ils soient dans une rue où tous les dimanches, ils auraient pu obtenir le salut de leur âme. Merci Seigneur pour ça. Ils n'en veulent pas, c'est leur affaire. Nous, aimons-les comme ils sont. Ils se convertiront un jour, c'est bien, tant mieux. Ils ne se convertiront pas, c'est leur affaire. Nous, aimons-les comme ils sont, mes frères et sœurs. C'est important. Moi, j'entends des choses. Ah, moi, celui-là, je ne peux pas le blairer. Dans l'église. Celui-là, je ne peux pas le saquer. Celui-là, il m'énerve. Bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, c'est vrai. Mais quand même, je l'ai entendu. Mes frères et sœurs, il est certain qu'on peut continuer à chanter « Manifeste-toi ». Mais je ne suis pas du tout sûr que Dieu va se manifester si on n'aime pas son prochain. On dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». C'est quelque chose que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui dit « Moi, Seigneur, tu vois, je veux bien conduire. Je veux bien conduire. Je veux garder mes points. Je veux bien conduire. » Et qui, à la sortie de la ville, prend l'autoroute à contresens. Et qui dirait, bon, ils sont fous tous ces gens. Tous ces gens roulent à contresens, ils sont ridicules. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui roule à contresens et qui veut bien conduire? Vous diriez, mais il est fou. Il va se tuer, il va surtout se tuer, c'est pas grave. Il va tuer quelqu'un peut-être. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, voyez, quand on dit à Dieu, je veux faire ta volonté, et qu'on n'aime pas son prochain, c'est à peu près la même chose. Vous allez vous fracasser parce que c'est un commandement que Dieu a daigné nous expliquer qu'il était le second, semblable au premier, dont on pourrait presque dire premier bis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, mes frères et sœurs, voyez, quand un chrétien, « Oh Seigneur, que ta volonté soit faite », qu'il l'exprime avec passion ou pas, mais un chrétien qui dit « Que ta volonté soit faite » et qui prend la décision de ne pas aimer son prochain, eh bien, il est à contresens, il va se fracasser. Et ce n'est pas ce que nous voulons. On se demande pourquoi des chrétiens, parfois, eh bien, chutent, etc. Là, c'est un domaine tellement sérieux qu'on n'a pas jugé. Mais quand même, mes frères et sœurs, je suis persuadé que bien des choses changeraient si nous nous mettions à aimer notre prochain. Point barre. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu le dit. Dieu le dit. On pourrait dire, mais pourquoi il faut aimer? Ah, il faut aimer mais monsieur, comment je suis d'accord? Je vais aimer mon prochain parce qu'en aimant mon prochain, je vais en tirer des avantages. Est-ce qu'on peut en tirer des avantages d'aimer quelqu'un? Est-ce qu'on peut en tirer des avantages? Est-ce que les gens du monde sont fous, assez fous, pour oublier cette vérité? Est-ce que les gens du monde ne savent pas non plus que même s'ils s'appliquent à aimer, ils vont tirer des avantages? Bien sûr, nous le savons, mais nous ne le faisons pas pour des avantages. Nous pourrions dire, ah mais moi je vais aimer, comme ça les gens en retour ils vont m'aimer. Non, non, non. Le Seigneur Jésus nous a aimés tels que nous étions, alors que nous ne l'aimions pas. Et je crois que ça ne serait pas sérieux si nous nous mettions à dire, ce commandement il me convient bien, je vais aimer les gens, comme ça je vais me les mettre dans la poche, etc., etc. Mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous aimons les prochains parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Nous devons aimer notre prochain. Il arrive parfois que j'entends et je le sais, je l'ai vu, que quelqu'un soit impliqué dans une activité, mais qu'il méprise ses parents. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? On peut dire oui, mais fais ceci, vous rendez compte, comme il est engagé, comme il est impliqué. Et on voit dans la parabole qu'on n'aura pas le temps de partager, qu'il est nécessaire que nous nous impliquions dans une activité, que nous fassions certaines choses. Parce que quand même, il est écrit que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il est? Il est pire qu'un infidèle. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses, et si Jésus parle d'un premier, d'un second, etc., c'est pour qu'on comprenne bien qu'il ne faudrait pas que nous nous appliquions à faire certaines choses, que ça nous disculperait d'aimer les gens. Vous voyez, moi je fais ça, moi je donne tant d'argent, moi je fais ci. Vous vous rappelez les pharisiens qui la loi du... comment ça s'appelle? La loi du corban. Vous vous souvenez cette loi du corban? Il s'était arrangé pour pondre un truc de telle sorte que l'argent qu'il donnait à l'église, ça soit l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour s'occuper de leur famille. Alors ils ne s'occupaient plus de leur famille. Papa et maman, ça me va pas. Donc l'argent, j'ai 400 euros pour m'occuper de mes parents, eh bien je les mets à l'église et je suis... voilà. Et ils pensaient qu'ils aimaient Dieu en faisant ça. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Par contre, il est certain qu'on ne peut pas ne pas donner. Et qu'une église qui ne donne pas, un chrétien qui ne donne pas, il y a vraiment, vraiment quelque chose de grave. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu ne dit pas « est-ce que tu donnes ?» Le Seigneur nous dit « est-ce que tu aimes ?» Alors vous avez vu, on peut inverser les choses. Moi, ça fait une semaine que je réfléchis à ça, parce que je ne veux pas que nous nous trompions en faisant des choses. Et comme l'église de Laodicée, qui s'est fourvoyée, parce qu'elle pensait que comme elle était riche et qu'elle devait faire certainement plein de choses pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui a dit, mais tu es loin de savoir que tu es pauvre. Et ce n'est pas parce que l'église de Sainte-Anne s'applique à donner qu'elle est riche. Si elle donne, c'est une grâce de Dieu. Parce que Dieu nous permet que nous ayons la possibilité de donner. C'est une grâce. Ce que le Seigneur nous demande, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ton prochain? Bien sûr que là, c'est facile de nous aimer entre nous. Je l'espère. Vous aimez ceux qui sont ici? Je le répète. Est-ce que c'est facile pour vous d'aimer ceux qui sont à côté de vous là?
C'est facile pour
vous? Bon, j'espère que franchement ça l'est. Parce que si ça vous est difficile d'aimer ceux qui sont dans la maison du Seigneur, Dieu vous aidera. Ne vous suicidez pas pour autant, Dieu va vous aider. Mais c'est quand même révélateur qu'il y a besoin que certaines choses changent. Oui, je le répète, on peut donner et ne pas aimer. Alors il faut le faire. Il faut le faire en aimant. On va, je l'ai dit tout à l'heure, on va se consulter parce qu'on m'a demandé de ci, on m'a demandé de là, on m'a demandé est-ce qu'on peut aider telle église. Le papa de Michael Fontaine va prendre une assemblée où ils sont, je crois, combien, 5, 6, 6, 10. Ils sont 10. Vous comprenez bien que ce n'est pas avec ça qu'il va avoir un salaire. Bon, est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'on aide cet homme? Est-ce que ça serait bien qu'on aide? Voilà. Mais il faut le faire en aimant. Il faut le faire en disant, tu vois, Seigneur, tu veux sauver des âmes dans cette ville de Marvejols. Seigneur, il n'y a que 15 000 habitants. Mais quand même, si Dieu peut en sauver quelques-uns, est-ce que c'est bien? Mais il faut le faire en aimant. Il ne faut pas dire, on va donner 500 euros par mois, voilà, parce qu'il faut donner 500 euros par mois. Nous, on donne 500 euros à l'église de Marvejols. Tout ça, ça ne va pas. Il faut donner en aimant. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'important. Alors, oui, les gens ne recevront pas tous notre amour. Et c'est ça le piège. Le diable sait comment nous amener à ne pas respecter ce commandement. Hier midi, je voulais voir les informations. Je suis tombé sur une émission juste avant. C'était un speaker qui interviewait des gens dans la rue. C'était aux États-Unis. Et je l'ai regardé parce que la question m'intéressait. Et il a dit, voilà, vous avez gagné le gros lot. Et qu'est-ce que vous diriez à votre patron demain? Alors, ils avaient tous un masque, bien sûr, et c'était que des paroles insultantes, que des paroles grossières. Moi, si je gagnais au gros lot, voilà ce que je dirais à mon patron, des choses qu'on ne peut même pas répéter. Et tout le monde rigolait, sauf moi. Parce que moi, je trouve qu'on est en train de nous enseigner à haïr notre prochain, et que les gens ne s'en rendent pas compte, et que des fois, j'entends même des blagues qu'on ne devrait même pas entendre, parce que c'est des blagues qui méprisent les gens. Mes frères et sœurs, si Jésus, notre Seigneur, le Maître, le Seigneur du ciel et de la terre, a dit que ce commandement est le plus important, que tout le reste, tout ce qui va découler, dépendra de ça, moi je pense que ça valait la peine qu'on y réfléchisse un tant soit peu. Alors si les gens ne reçoivent pas notre amour, c'est leur affaire, mais s'ils réagissent par l'ingratitude, le mépris ou quoi que ce soit, eh bien c'est leur affaire, nous allons en faire un mot d'ordre, tu aimeras ton prochain. C'est pour ça, nous ne nous décourageons pas, parce qu'on peut se décourager. C'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver les uns les autres et de reprendre courage. Je dis, bon, c'est clair, je vais me mettre à aimer. Dans une famille, on doit aimer ses parents. Ce matin, encore une dame me disait, voilà, eh bien, telle personne dans ma famille ne m'aime pas. Et les fruits sont là. Et moi, je pense que ça ne va pas. Dans une église, il faut que nous nous aimions. Vous êtes d'accord? Et c'est un choix. C'est un choix qu'on fait d'aimer. C'est pas, oh, moi, vous savez, regardez Saul de Tarse. Saul de Tarse, quand il a rencontré Jésus, il respirait quoi? La tendresse du religieux parfait? Il respirait le meurtre et la menace. Il respirait. Quand vous parliez avec lui, je vous assure que ça devait faire peur. Eh bien, il a été touché par la grâce de Dieu. Et quand vous lisez ses épîtres, je pense que ça a quand même changé. Je pense qu'il respirait un peu mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il respirait l'amour de Dieu parce qu'il le recevait continuellement. Je le répète, ne cherchons pas à plaire aux hommes, même si c'est une évidence qui doit se présenter. Cherchons à plaire à Dieu. Vous voulez l'approbation de Dieu? C'est ça qui est important. C'est l'approbation de Dieu. Mais nous devons aimer notre prochain, quitte à passer pour des serpillères ou des mauviettes. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous plaisions à Dieu. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Alors ne commençons pas à rouler à contresens au nom de ce que l'on voudra. Ce commandement devrait toucher notre cœur. Vraiment toucher notre cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait demi-heure que je prêche dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce commandement? Tu aimeras ton prochain. Je l'ai présenté. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement, ne répondez pas à haute voix, mais qu'est-ce que vous en pensez? Quatre mots, tu aimeras ton prochain. Quatre mots, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'on se mette et qu'on s'applique à le méditer? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que ça vous arrive de vous irriter contre vous-même? De dire, oh, que je suis bête, bon, que je suis idiote. Est-ce que vous le dites des fois, ça? Tiens, non, allez, dites. Vous aimez qu'on vous le dise ou vous le dites? Vous n'aimez pas qu'on vous le dise, mais vous le dites parfois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais que je suis bête, mais que je suis bête. Mais si quelqu'un venait vous dire, mais oui, c'est vrai que tu es bête. C'est sûr qu'on ne réagirait pas de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est pour expliquer notre limite. Et nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas parfaits. De la même manière que nous sommes capables de nous irriter contre nous-mêmes, de nous mettre en colère contre nous-mêmes, mais quand même, soyons très honnêtes, puisqu'on est dans ce sujet, ça ne dure pas longtemps quand même. Même si vous vous irritez contre vous-même, ça dure combien de temps, à peu près? Allez, aidez-moi un peu. Aidez-moi dans ma prédication. Allez! Ça dure combien? Oui, ça dure quelques secondes, ça dure une minute. Mais c'est incroyable qu'on a vite fait de pardonner à sa propre personne vite fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, je crois que nous devrions faire pareil. Il y a des choses, parce qu'on ne va pas non plus être hypocrite. De la même manière que parfois nous nous irritons nous-mêmes quelques secondes parce que nous aimons vite nous pardonner, nous avouons que nous pouvons nous irriter contre quelqu'un. Il y a des choses qui nous irritent, il y a des choses vraiment qui nous agacent. Eh bien, nous devrions peut-être faire de la même manière. Voilà, de la même manière qu'on se pardonne en quelques secondes. Mais voilà, bon, ça méritait, Seigneur. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer comme il est. Je veux l'aimer comme il est. Et je suis persuadé que Dieu nous fera faire d'énormes progrès. On se demande pourquoi il n'y a pas le réveil parfois dans les églises. Alors on met ceci en avant, on met cela en avant. C'est pas faux non plus. Mais je crois qu'on devrait commencer à être attentif à des commandements qui feront que notre bien-être sera comme un fleuve parce que nous nous mettrons à obéir à ce commandement. Alors, je sais, dès qu'on parle d'obéissance aujourd'hui, ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous avez ce respect des commandements du Seigneur et combien j'en suis vraiment reconnaissant à Dieu. Il y a des églises, dès que vous parlez de commandement, on vous regarde de travers. Bon, mais comment obéir à ce commandement? Eh bien, pourquoi? Parce que Dieu le demande. Il ne faut pas être bien compliqué. Si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, je vais obéir à ce commandement parce que Dieu me le commande. Oui ou non? Est-ce que vous êtes assez sot pour pouvoir dire « Ah ben non, moi je n'aime pas ». C'est comme ça, j'ai parlé de Saul de Tarse, mes frères et sœurs, si Dieu nous a touchés, nous pouvons nous décider à aimer. Moi, quelqu'un m'a dit dernièrement « Ah, moi j'aime personne ». C'est comme ça, si vous connaissiez mon enfance, j'aime personne, j'aime tout juste mon conjoint, voilà, c'est comme ça. Ben, je ne sais pas quand elle va passer devant Dieu, si c'est comme ça que les choses doivent se présenter. Je crois que si Dieu nous dit « Tu aimeras ton prochain », soyons sérieux, nous pouvons et nous devons nous appliquer à aimer notre prochain. C'est ça, que ta volonté soit faite. Vous, nous, moi, qui prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, voilà comment les gens peuvent changer en voyant l'affection que nous pouvons avoir et on ne veut pas gagner. Ne le faisons pas d'une manière égoïste, comme c'est le cas dans le monde, où les gens aiment par intérêt. Le Seigneur nous a aimés. Aimons comme le Seigneur, inconditionnellement. Bien sûr que quand on aime, on exerce la miséricorde. Et je le dis parce que c'est un fardeau. Ça, c'est un fardeau personnel que je me permets de partager dans la prédication. Je m'inquiète beaucoup des chrétiens qui ne font rien. C'est quelque chose que je dois déposer continuellement au pied du Seigneur parce que ça me fait peur. Parce que je sais par l'enseignement de la Bible que ceux qui ont enfoui les talents, quand je vois comment Dieu va parler du Samaritain, du Lévite, du prêtre, de celui qui a enterré le talent, mes frères et sœurs, moi, ça me fait peur. Que de voir que beaucoup de chrétiens, non seulement n'aiment pas, mais ne donnent pas. Alors il ne faut pas renverser, je l'ai dit, les deux, mais mes frères et sœurs, je dois me poser la question, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui dois-je visiter? Est-ce que vous pouvez être amené à visiter une veuve? Est-ce que c'est votre... Ou est-ce que vous allez dire encore une fois, j'ai pas le temps. Quand vous allez passer devant Dieu, c'est pour certains, moi je vous le dis, ça va être terrible. Parce que je crois que le Saint-Esprit nous montre à chacun ce que nous avons à faire. Mes frères et sœurs, soyez sérieux. On ne peut pas séparer les deux. C'est vrai que tu aimeras doit être en premier avant de donner, mais une chose est sûre, si vous ne donnez pas, il y a un truc qui ne va pas. Et vous devez vous donner. Vous devez avoir envie, ça doit être un plaisir de vous donner. Oui ou non? Est-ce que c'est un plaisir? Si vous faites les choses n'importe comment, bien sûr que, j'en parlais ce matin avec Monsieur de Dieu et Monsieur Bordeneuve, si un pasteur, il prêche sans amour. On en parlait de ça ce matin. Si un pasteur prêche sans amour. Mais ne nous étonnons pas que dans les églises, les gens, après, entre guillemets, détestent la religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne nous étonnons pas. Je crois que même si les choses sont sévères, même si les choses sont sérieuses, profondes, elles peuvent être apportées avec beaucoup d'amour. Oui ou non? Voilà. Si vous êtes animateur de l'école du dimanche, et si vous êtes là, le sourcil fermé, froncé, pour éduquer, pour enseigner vos enfants, ne vous étonnez pas que les enfants soient dégoûtés de la religion. Mes frères et sœurs, je crois qu'on doit prendre ce commandement au sérieux. Si tu étais attentif à mon commandement, ton bien-être serait comme un fleuve. Mes frères et sœurs, moi, je vous encourage, moi, je vais le faire. Franchement, je le fais, je m'y applique. Et j'ai honte, parce que quand j'ai préparé cette prédication, je vous dis tout de suite, j'ai pensé à cette pièce que j'avais donnée à un clochard sans même le regarder. Vous voyez, j'ai eu honte quand j'ai préparé cette prédication. J'ai eu honte de la façon dont moi, le pasteur, je pouvais parfois faire certaines choses d'une manière minable. C'est pour ça que, bon, on en parle ensemble, j'espère que vous me garderez quand même. Mais mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous nous souvenions, avant de prendre le pain et le vin, la façon dont Jésus nous a aimés. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi, ça me fait du bien. Comment Jésus nous a aimés? Est-ce qu'il nous a aimés? Est-ce qu'il aimait Saul de Tarse avant qu'il soit aimable? Est-ce qu'il ne vous aimait pas avant que vous soyez aimable? Est-ce qu'il ne nous aimait pas lorsqu'on se moquait de lui, lorsqu'on l'injuriait, lorsqu'on a fait toutes sortes de choses folles? N'oublions pas, il ne nous aime pas comme ça. Il nous aime inconditionnellement. Il nous aime éternellement. Il nous aime quand tout va bien, mais il nous aime quand on a chuté. Est-ce que Dieu aime quelqu'un qui a chuté? Oh Dieu, celui-là, il va le châtier. Il a commis deux boulettes, il va... Moi, je crois que quand tout va très bien, Dieu peut nous éprouver, parce que Dieu sait ce qu'il attend de nous. Est-ce que Dieu peut éprouver quelqu'un qui va très bien? Bien sûr. Mais je crois que nous ne devrions pas nous permettre de juger les épreuves des autres. C'est écrit. Réjouissez-vous de vos épreuves, pas des épreuves des autres. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous voyez comment la vie te fait de se tromper. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime, malgré nos péchés, malgré nos bêtises. Vous savez ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Vous savez ce que la Sainte Seine représente. Est-ce que ce n'est pas le moment le plus joyeux de la semaine, celui que nous allons vivre dans quelques instants? Quand nous sommes devenus chrétiens, pour quelqu'un dit « oui, j'étais catholique, je suis devenu évangélique », bon, tout ça, ça s'explique. Mais en vérité, quand nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas devenus évangéliques, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui aime. Oui ou non? Nous en parlerons mardi. Je parlerai du disciple, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je suis peiné, c'est certainement ma faute, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce que c'est un disciple. Et je voudrais que vous priez pour mardi soir, afin que nous comprenions vraiment tous les textes, et ils sont nombreux où Jésus parle de ce qu'est un véritable disciple. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, en vérité, nous avons décidé de suivre son exemple. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi vous êtes devenu chrétien? Pourquoi vous êtes devenu chrétien? Pour pas aller en enfer? Non mais je veux dire, alors moi je comprends quelqu'un qui me dit moi je veux pas aller en enfer, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que je veux pas aller en enfer. Est-ce que ça tient debout? Bien sûr que ça tient debout. Mais comment que ça tient debout? Mais je pense quand même qu'on peut élever le niveau. Et on est devenu chrétien. Bien sûr qu'on veut pas aller en enfer, mais on est devenu chrétien parce qu'on veut suivre son exemple. Et Jésus nous a aimés. Alors bien sûr que moi le premier, je peux baisser la tête et dire « Ah là 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 là, je suis coupable. » J'avais pas envie de vous faire un sermon, ce n'était pas du tout mon but. Pour vous sermonner, j'avais envie qu'on comprenne que si Jésus a dit que c'était le plus grand, ça valait la peine qu'on y réfléchisse, mes frères et sœurs. Oui, qu'on a honte. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Il n'y a pas des paroles dures qui sont parfois sorties de votre bouche envers un tel, envers votre prochain? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles dures qui sont... Moi j'ai honte. Franchement, j'en ai honte, mais je sais que je peux en parler. Je peux, parce qu'on s'aime, on peut parler de ces choses. Et je crois qu'on peut dire ce matin, oui, on peut tous baisser la tête, on est tous couverts de honte, on peut s'humilier et dire, Seigneur, tu sais, comme Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous aimez le Seigneur? Répondez vraiment. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors on peut lui dire, Seigneur, je m'humilie et on va repartir à zéro. Oui, j'ai chuté. Oui, je me suis loupé. Oui, j'ai mal parlé. Mais Seigneur, je vais en faire un mot d'ordre, je vais aimer mon prochain. Et je suis sûr que bien des bénédictions couleront dans l'Église, dans nos foyers. Je m'adresse aux enfants, aux ados. Est-ce que vous aimez vos parents? Appliquez-vous-y, vous aussi, même si vous n'êtes pas encore converti, je m'adresse aux ados, là, aux autres. Appliquez-vous à réfléchir à ce commandement. Ce commandement peut vous amener à la conversion. Ce commandement peut vous amener à aimer le Seigneur et à faire une belle expérience avec lui. Alors Seigneur, donne-moi un cœur nouveau ce matin. Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir quelques frères. On peut se recueillir, s'il vous plaît, et dire au Seigneur, je vais réfléchir à cette prédication. Je pense que vous êtes, à moins que vous soyez parfait, je pense que vous êtes comme moi. Et qu'on peut tous baisser la tête, ça tombe très bien. C'est l'heure de la Sainte-Cène. Et dire, Seigneur, oui, moi aussi j'ai mal parlé. Moi aussi j'ai peut-être donné une pièce à un clochard. Je donne plus les croquettes à mon chat mieux qu'à un clochard, la pièce. Quelle honte, quand on y réfléchit. On peut tous baisser la tête, tous. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas aussi être touché par la grâce de Dieu? Moi, je le crois, que si Jésus a institué la scène, quelle bénédiction! Comment allez-vous la prendre? Je vais déjà vous demander de vous lever, vous les chrétiens, vous les disciples, vous qui avez décidé de dire oui, je veux le suivre, et je vais faire de ces quatre mots un mot d'ordre. Pendant des années, je vous ai rappelé, chaque fois que cela était souhaitable, ne vous inquiétez de rien. Plein de chrétiens en ont fait leur mot d'ordre, et ils ont bien fait. Mais pourquoi ne ferions-nous pas de ce mot d'ordre, de ce commandement un mot d'ordre? Mes frères et sœurs, nous pourrions voir le réveil dans l'Église. Si vraiment nous nous mettions à dire « je vais aimer mon prochain ». Ah, ma femme, elle n'est pas convertie, elle se moque de moi. Eh bien, je vais l'aimer. Oui, je vais l'aimer. Mon mari ne vient pas à l'Église. Mon mari, c'est un idiot, il ne vient pas à l'Église, il ne veut pas se convertir. C'est un imbécile. Non. C'est une âme que Dieu aime. Et je vais l'aimer. Je ne vais pas le juger. Je vais l'aimer comme il est. Jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle, qu'il se convertisse ou qu'il ne se convertisse pas. Je vais l'aimer. Mes frères et sœurs, prenons la victoire. Prenons la victoire. Pensez à vos frères et sœurs dans l'Église. Pensez aux frères et sœurs des autres dénominations. Pensez à vos collègues de travail, aux blasphémateurs. Dites oui, je vais les aimer. Je ne sais pas comment je vais faire, mais tu vas m'aider, Seigneur. Et je veux que ce petit peu de vin, ce petit morceau de pain me rappelle comment toi tu nous as aimés. Vous vous rappelez la première parole de Jésus sur la croix? Il venait d'être crucifié. On ne le ferait pas justement, tiens, pour un animal. Il venait d'être crucifié et la première parole qu'il utilise, c'est « Père, pardonne-leur ». Donc ça veut dire que lui, il avait déjà pardonné. Il demandait au Dieu puissant le pardon pour que nous puissions toujours avoir la victoire. Ce matin, prenons la victoire. Prenons la victoire. Notre Père, merci pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée. Et si tu as dit que de ce commandement dépendait toute la loi, eh bien Seigneur, nous le croyons. Qu'un réveil, que la bénédiction dans nos maisons, la bénédiction dans l'Église dépendra de cette faveur. Oui, Jésus, merci. Merci de nous pardonner. Merci de ta patience. Merci pour ta miséricorde. Oh oui, je veux dire avec le psalmiste, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.